midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour et bienvenue, bon dimanche, bonne fête de l'Aïd à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Marc Théris. Bonjour Marc Théris.
Bonjour.
Vous êtes le bienvenu, vous êtes docteur en histoire, vous êtes spécialiste du patrimoine islamique. Vous êtes très impliqué dans la lutte du droit des minorités et vous êtes fondateur d'une association qui s'appelle Le Regard de l'Autre. Quel est l'objet de votre association ?
Alors, Le Regard de l'Autre a pour objet de valoriser l'histoire et le patrimoine des minorités à travers des manifestations culturelles, des expositions, du spectacle vivant, des rencontres avec des auteurs aussi. Voilà.
Vous êtes là pour nous parler de votre livre qui s'appelle « Lisbonne, dans la ville musulmane » aux éditions Chantaigne. Quel est l'apport arabo-musulman au Portugal contemporain ?
Alors l'apport arabo-musulman au Portugal, déjà il puise ses racines dans une longue histoire commune qui commence dès le Moyen-Âge, avec une occupation musulmane pendant 5 siècles, donc on va dire grosso modo du 7e au 12e siècle. Et puis, par la suite, il y a des musulmans qui restent sur le territoire portugais. Il y a aussi des expulsions, il y a la présence portugaise au Maroc. Et aujourd'hui, il y a une communauté musulmane au Portugal, avec la présence d'une mosquée à Lisbonne. On a une communauté musulmane d'à peu près 40 000 membres au Portugal. Et également la présence d'Ismaéliens, avec la fondation Aga Khan, qui implante son siège mondial à Lisbonne. Donc il y a une histoire sur le long terme, qui, j'espère, à travers le livre, peut-être parcouru par le lecteur, à travers en fait des parcours dans la ville, des parcours par quartier, par thématique, des parcours chronologiques aussi.
Même si vous les avez cherchés, ces parcours, et que vous avez recherché les guides qui pouvaient vous les proposer.
Oui, parce que le livre, c'est un peu une quête, c'est un carnet de recherche, je dirais, à la frontière du guide touristique, du carnet de recherche en sciences humaines, parce qu'effectivement, ce passé est en cours de redécouverte, de réhabilitation au Portugal. Le Portugal a longtemps été sous la coupe d'une dictature qui...
Mais c'était il y a longtemps quand même.
C'était il y a longtemps.
Saint-Lazare, c'était il y a quand même...
Saint-Lazare, c'était il y a longtemps, mais malgré tout...
C'était les
années 70, mais c'est pas si vieux si on prend le temps long de l'histoire. Et bien, il faut du temps pour, on va dire, réintroduire ce particularisme dans l'histoire portugaise et l'appréhender sur le moyen long terme. Donc ce sont des choses qui sont en cours, mais aussi, bon, faut dire qu'au Portugal, il y a moins de traces qu'en Espagne de ce patrimoine.
Physique.
Voilà, physique, patrimoine architectural.
Voilà, c'est de ça dont on parle. Aujourd'hui, dans l'histoire officielle telle qu'elle est apprise à l'école, est-ce que les musulmans ont disparu de l'histoire portugaise ?
Alors, les musulmans n'ont pas disparu, non. Ils sont présents dans les manuels scolaires, puisque j'en parle aussi dans le livre. Ils sont présents, on va dire, ce qui correspond à peu près à nos classes de collège. Mais ils sont présents pendant la période médiévale. Par la suite, il y a toujours des musulmans qui sont présents sur le territoire portugais. On n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas non plus des morisques. Alors, ce ne sont pas comme les morisques espagnols. Les morisques portugais, en fait, ce sont des Marocains, essentiellement, qui sont des esclaves et qui ont été déportés au Portugal dans le cadre de la présence portugaise au Maroc. Et on ne parle pas non plus bien des musulmans dans l'histoire contemporaine portugaise. On va dire que la brique de l'histoire musulmane s'arrête à la présence musulmane au Portugal. C'est déjà pas mal, hein, y a eu un bon travail qui a été fait. Mais de fil en aiguille, les choses s'améliorent. On voit des associations qui travaillent sur le patrimoine islamique au Portugal, des citoyens. Enfin, il y a une sorte de bouillonnement actuellement au Portugal pour remettre au goût du jour, mettre en lumière cette mémoire et cette histoire.
Alors vous allez marcher sur les traces de Al-Uzbuna. Alors Al-Uzbuna, oui. c'est Lisbonne.
Alors, Al-Uzbuna, c'est le nom de Lisbonne pendant la présence arabo-musulmane, qui dure 4 siècles et demi.
Sensiblement comme en Espagne, finalement.
Alors, sensiblement comme beaucoup de villes d'Andalousie, finalement, ouais. Sensiblement comme Cordoue ou Séville. Alors, moins longtemps que Grenade, parce que Grenade, c'est 1492, ça va être plus long. Mais oui, c'est d'ailleurs, on va dire, si on déconstruit les histoires nationales, Lisbonne fait partie d'Al-Andalus. Et si c'est une ville importante, elle reste quand même sous la coupe de villes plus grandes comme Séville ou Badajoz, donc qui sont aujourd'hui en Espagne.
Mais alors, vous dites que Lisbonne fait partout d'Al-Andalus, mais comment est-ce qu'on l'a oublié finalement ?
Alors, on l'a oublié parce que, on va dire, il y a eu les constructions nationales qui se sont faites au XVIIIe, XIXe siècle, comme partout en Europe. Ces constructions nationales se sont appuyées sur certains mythes, certains héros. Et l'islam, on va dire la présence musulmane, n'en faisait pas partie, bien au contraire. Le Portugal a eu une communauté de destin avec le Maroc notamment, mais c'est aussi construit en opposition au monde islamique, dans le cadre de conquêtes, dans le cadre de conflits. Et pendant longtemps, les musulmans ont été vus comme l'ennemi à abattre, le contre-modèle de la nation chrétienne et occidentale. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement.
D'ailleurs, votre voyage, puisque c'est un voyage que vous faites, il est à la fois au Portugal, mais il est aussi au Maroc. Et qu'est-ce qui reste finalement de cette histoire entre le Maroc et le Portugal au Maroc ? Alors, parce que c'est une histoire qui est quand même assez peu sue, finalement.
Oui, c'est une histoire qui est assez peu sue des deux côtés de l'Atlantique, je dirais, à la fois au Portugal et peut-être encore plus au Maroc. Les Portugais, en fait, ce sont les premiers occidentaux, les premiers Européens qui vont réussir à vaincre les Marocains, le Grand Maghreb, on va dire. Le Grand Maghreb faisait peur à la péninsule ibérique, puisqu'ils avaient occupé pendant un grand laps de temps une partie de son territoire. Et les Portugais vont être, quelque part, les premiers colonisateurs du Maroc, ils vont s'installer dans beaucoup de villes, ils vont rester notamment à Al Jdida, donc Mazagan, jusqu'au XVIIIe siècle, mais ils vont aussi s'installer à Tanger, ils vont fonder Agadir, Santa Cruz, en fait, qui était une forteresse, ils vont fonder en fait des comptoirs, et il va y avoir une histoire commune entre le Maroc et le Portugal. Pour les Portugais, c'est tout à fait normal d'ailleurs de s'installer au Maroc, c'était la banlieue du Portugal, comme pour les Marocains, c'était tout à fait logique de s'installer en péninsule ibérique.
Et qu'est-ce que vous êtes allé vérifier sur place, vous ?
Alors, moi, quand je suis allé, que ce soit à Lisbonne ou au Maroc...
Mais au Maroc, qu'est-ce que vous vouliez vérifier au Maroc ?
Alors, ce que je voulais vérifier, c'était voir comment ce patrimoine, cette histoire était perçue, comment elle était mise en valeur. Alors, il s'avère qu'à Al Jdida, il y a des choses qui sont mises en place, notamment un centre du patrimoine luso-marocain. Mais c'est vrai que par rapport aux commémorations liées à cette histoire, des commémorations contemporaines, notamment à Al Jdida, où il y avait une commémoration liée à l'inauguration de ce centre luso-marocain, avec le président du Portugal et le roi Hassan II à l'époque, eh bien, il y avait une certaine amnésie en mettant en avant des relations contemporaines qui sont excellentes entre le Maroc et le Portugal, mais on oubliait cette histoire qui est faite de conflits, mais aussi de rapprochements, de métissages, qui est pluriel, comme toutes les histoires, et on n'en parle pas beaucoup, finalement.
Mais est-ce que c'est une histoire qui est douloureuse ?
Alors, c'est une histoire qui est à la fois positive et douloureuse, parce qu'il y a eu des guerres. Le Portugal, quelque part, a perdu la face, je dirais, au Maroc, avec la bataille des Trois Rois à Ksar el-Kébir, où c'est Don Sébastien, le roi du Portugal, qui subit une écrasante défaite. Et à partir de cette époque, le Portugal, quelque part... perd de sa superbe et connaît d'ailleurs par la suite l'occupation de l'Espagne. Donc il y a un destin de communauté, une communauté de destin, je dirais, entre ces deux régions. Et il y a aussi effectivement des Portugais qui ont été capturés et convertis de force à l'islam, qu'on appelle les renégats au Maroc. Et à l'inverse, il y a aussi des Morisques.
Lors de la Reconquista.
Pour le coup, c'était lors de la présence des Portugais au Maroc. Ils capturaient des esclaves et c'était souvent des Marocains, des Maurices, qui étaient envoyés au Portugal et qui étaient obligés de se convertir de force au catholicisme. Et pour certains, ils rêvaient de retourner, c'est ce qu'ils faisaient d'ailleurs dans leur terre d'origine. Donc il y a à la fois du positif et du négatif. Il y a du positif parce qu'il y a des métissages au niveau de la poésie, au niveau de l'architecture, au niveau de la gastronomie. Il y a eu aussi des mariages mixtes dans les deux cas, via des conversions, mais il y a eu des mariages mixtes. Mais il y a aussi des guerres, des conversions forcées, c'est l'histoire.
Alors votre livre vient combler un vide, mais il y en avait un autre qui était apparu il y a une quarantaine d'années, dans les années 70, dites-vous, le livre d'Antonio Borges Coelho. Et de quoi parlait ce livre ?
Alors, il y a eu des Portugais qui ont déminé le terrain, je dirais, qui ont commencé à travailler sur la thématique,
voilà, et sur cette histoire luso-islamique.
Voilà, sur cette histoire luso-islamique, sur cette culture luso-arabe, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Et souvent, ils s'inscrivaient en fait dans les pas des Espagnols, parce que les Espagnols forcément avaient un patrimoine plus visible. Il y a l'Embrun de Grenade, il y a des restes.
Il y a la mosquée de Cordoue,
il y a la mosquée de Cordoue également. il y a des restes qui sont plus visibles, qui ont été mis en valeur au XIXe siècle. Au Portugal, il y a aussi des choses, il y a des églises mosquées, mais les choses sont peut-être moins palpables pour le commun des mortels. Donc au début, les Portugais s'inscrivaient, mettaient leurs pas dans ceux des chercheurs espagnols. Puis de fil en aiguille, surtout à travers l'archéologie, aujourd'hui à Lisbonne, il reconstitue un puzzle de la présence islamique, mais aussi de la présence musulmane, après la reconquête, on va dire, portugaise. Mais c'est surtout à travers des fouilles archéologiques qui se font de fil en aiguille, je dirais, au fil de l'eau.
Et toujours aujourd'hui, on continue à découvrir des...
On continue à découvrir des choses. Il suffit qu'il y ait des travaux à côté d'un hôtel ou à Lisbonne et on découvre toujours une strate de l'époque islamique. Et donc, ça remet en cause certaines théories, ça rebat les cartes de ce qui avait été établi par la suite, auparavant, pardon.
Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement, sous nous, on est en train de marcher sur cette histoire.
Oui, tout à fait. Il y a déjà d'ailleurs des sites archéologiques au niveau de Lisbonne qui sont mis en valeur, qui permettent effectivement de se rendre compte un peu de certains aspects de la ville islamique, des aspects du quotidien, des aspects architecturaux. Et il y a d'autres projets au niveau de mécènes, de fondations ou des projets portés par la puissance publique qui tentent à valoriser ce passé islamique au milieu des différentes strates qui ont fait Lisbonne, donc les Romains, mais aussi, on va dire, la période de la Reconquête, la période médiévale, la période moderne, où on a toujours, à chaque fois qu'on creuse à Lisbonne, pratiquement, on trouve toujours des céramiques, des éléments architecturaux, des choses qui peuvent expliquer effectivement cette présence, qui permettent de la reconstituer.
On le disait tout à l'heure, si vous allez à Grenade, si vous allez à Cordoue, si vous allez à Séville, et bien maintenant vous pouvez inclure Lisbonne dans vos projets de vacances et de week-end. Vous lisez d'abord le livre de Marc Théris qui s'appelle « Lisbonne dans la ville musulmane » et puis vous allez marcher justement sur les traces de ce passé. On en parle jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est le book club de Marc Théris, aujourd'hui à l'occasion de la publication de votre livre qui s'appelle « Lisbonne dans la ville musulmane ». Vous partez sur les traces de ce passé. Comment est-ce que vous êtes tombé sur le sujet ?
Alors, à la base, moi je suis muséologue, muséographe, et je me suis rapidement orienté sur la façon dont le patrimoine arabo-musulman, on va dire, est valorisé en Europe, notamment dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique. Donc il était tout naturel pour moi de m'intéresser à Lisbonne, et d'autre part Lisbonne c'est une ville que j'aime beaucoup, pour moi c'est la ville la plus occidentale d'Europe, mais la plus orientale aussi par rapport à son caractère, sa douceur de vivre, et je suis allé à plusieurs reprises à Lisbonne et je me rendais compte que ce passé n'était pas assez valorisé, qu'il y avait quelque chose à faire pour essayer de vulgariser la recherche scientifique en cours et donner envie aux gens d'aller vers cette histoire, vers cette mémoire.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de mosquée de l'époque, il n'y a pas de...
Alors la mosquée, en fait, elle est à côté de la cathédrale, elle est sous le cloître de la cathédrale. Il y a eu des fouilles archéologiques et le fruit de ces découvertes, parfois, sont valorisées dans certains musées. Il y a aussi l'architecture manuéline qu'on retrouve dans plusieurs endroits de Lisbonne qui s'inspire du style arabo-musulman.
Alors qu'est-ce que vous appelez l'architecture manuéline ?
Alors le style manuélin, en fait, Dom Manuel, c'est un roi du Portugal qui est très connu parce qu'il a participé à ce qu'on appelle l'expansion, enfin, on nomme aussi grande découverte, et l'architecture manuéline, elle reprend les codes en fait de l'architecture islamique antérieure, elle se développe au XVe siècle, et on retrouve bien des monastères à Lisbonne, notamment le monastère des Herménites qui est à Belém, qui est très couru par les touristes, qui s'inspire de ce style, et aussi d'autres monuments, je pense à la tour de Belém par exemple, qui est aussi un peu l'image d'Épinal de Lisbonne, et donc qui reprend les codes de ce style islamique.
C'est l'icône. Est-ce que finalement Al-Usbuna était une ville de seconde zone qui rayonnait peu dans Al-Andalus, contrairement à ses voisines qui, elles, étaient écrasantes?
Alors, Al-Usbuna, de prime abord, comme ça, effectivement, était une ville de deuxième catégorie par rapport à Séville ou même Badajoz ou même Silva au Portugal. Néanmoins, Al-Usbuna a connu une période de gloire au XIe siècle où elle a commencé à développer une vie culturelle, on va dire, très prolifique, avec la présence en fait d'un gouverneur qui venait de Saragosse,
Ibn Hud, oui,
voilà,
c'est ça.
Ibn Hud, qui a fait venir les meilleurs poètes, les meilleurs intellectuels de son temps. Ça a été une période, on va dire, fugace, assez courte, mais ça a permis à Lisbonne de connaître un éclat culturel sans précédent. Et d'autre part, Lisbonne, plutôt qu'une place intellectuelle, était une place commerciale et économique de première importance déjà à l'époque, puisque son emplacement à l'embouchure du Taj faisait qu'effectivement elle était à la croisée des routes commerciales et des routes maritimes. Donc les Arabes à l'époque l'utilisaient effectivement pour cet aspect, et ce sera le cas des rois portugais par la suite qui en feront leur capitale. Mmh.
Quelles sont les grandes figures qui émergent de cette époque ?
Alors, les grandes figures...
Est-ce qu'il y en a qui restent, en fait, finalement ? Alors, comme les grands médecins, des...
Alors, les grandes figures intellectuelles, on va dire, d'Al-Andalus, ne sont pas forcément passées par Lisbonne. Ensuite, vous avez des poètes qui sont pas forcément très connus, mais qui sont passés par Lisbonne. Vous avez aussi des médecins, vous avez également des émirs, effectivement, qui parfois d'ailleurs, ou des gouverneurs plutôt, qui parfois exerçaient la médecine et étaient poètes, étaient auteurs, puisqu'on avait cette pluridisciplinarité qui existait à l'époque. Mais il n'y a pas de nom vraiment connu. Il y a Al-Mutawakkil qui a laissé quelques traces dans l'histoire. Mais néanmoins, c'est vrai que les grandes figures intellectuelles, on va dire, de l'Occident islamique était plus sur Séville ou Cordoue ou Grenade, passait plutôt dans des villes plus importantes, on va dire.
Quand on marche sur les traces de cette histoire, comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'il existe, par exemple, des sources arabes sur cette histoire-là ?
Oui, bien sûr, il y a des géographes arabes qui parlent de Lisbonne. Ce sont souvent des sources postérieures qui ont été reprises, mais qui décrivent la ville. Il y a aussi les sources, qui ne sont pas arabes, mais les sources des croisés qui ont fait la conquête de Lisbonne avec l'armée du premier roi du Portugal, donc Afonso Henriques, Afonso Henri. Donc, on a des descriptifs de Lisbonne, et notamment, ce qui est intéressant, c'est les trois religions monothéistes qui cohabitent à Lisbonne pendant toute la période. Il y a des périodes de tension parfois, notamment au XIIe siècle, à la fin de la période de l'occupation musulmane avec les Almohades, avec des conversions forcées. Mais néanmoins, cette coexistence se passe plutôt bien. Il y a des chrétiens mozarabes.
Qu'est-ce qu'on appelle justement les mozarabes ?
Alors, les mozarabes, ce sont les chrétiens en terre d'islam, puisque l'église s'est maintenue. Il y avait un évêque à Lisbonne pendant la période musulmane. Donc, ils développent un culte en arabe. Je dirais une ironie de l'histoire, ils disparaissent avec la conquête chrétienne.
Mais justement, avec la Reconquista, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Ils disparaissent. L'évêque est assassiné.
Quel sort leur est réservé, justement ?
Alors, on les considère comme des musulmans.
C'est ça.
On les considère comme des musulmans. C'est vous allez aller dans des quartiers spécifiques où c'est la conversion si vous ne voulez plus être une minorité. Parce que néanmoins, les juifs et les chrétiens restaient quand même des minorités à l'époque islamique. Ils devaient payer un impôt. Mais on trouvait aussi des figures intellectuelles, des gens qui exerçaient des fonctions administratives importantes parmi ces minorités. Alors, au début de la Reconquête, le roi du Portugal essaie de maintenir cette importance des musulmans parce qu'il en a besoin. Ça perdure pendant un siècle. Ils deviennent des minorités, certes. Il y a des chartes qui leur accordent certaines libertés. Notamment à Lisbonne, il y avait une charte qui leur accordait pas mal de libertés. Mais par la suite, de fil en aiguille, on va dire à partir du XIIIe, XIVe siècle, il y a une volonté d'uniformisation de la foi au Portugal, comme dans toutes les monarchies européennes, avec des conversions obligatoires. Ça se traduit par des expulsions. C'est l'expulsion des Juifs en 1492, par exemple, en Espagne. Mais au Portugal, ça va être la même chose au cours du XVe siècle, avec l'obligation de devenir catholique.
Alors, aujourd'hui, pour ceux qui se rendent à Lisbonne, comment est-ce qu'on peut appréhender cette présence musulmane ?
Alors, pour appréhender cette présence musulmane, moi, c'est ce que je présente dans
le livre. Quand on se promène dans la ville aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Comment on fait ? On commence par quoi ?
Alors, moi, j'ai commencé par les Phéniciens, même si ce ne sont pas des musulmans.
Pourquoi vous avez commencé par chercher les Phéniciens, d'ailleurs ? Parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à trouver à Lisbonne, ces Phéniciens.
Alors, les Phéniciens, ils viennent du Proche-Orient, qui, aujourd'hui, est quand même une terre musulmane, bien que, on va dire, multiculturelle et avec de multiples confessions. Et donc, ça prouve que Lisbonne a entretenu des liens avec cette partie du monde depuis de longs siècles, on va dire, plusieurs millénaires, même. Donc, ces Phéniciens... Ils sont pas faciles à trouver à Lisbonne, et c'est un petit peu comme la période islamique. C'est l'archéologie préventive, on va dire, lorsqu'elle est exercée dans le cadre de chantier, qui permet de découvrir de nouveaux indices et de mettre de nouvelles pièces dans le puzzle de cette histoire. Donc ces Phéniciens, ils sont présents au château Saint-Georges, par exemple, qui est un monument emblématique de Lisbonne. Ils sont présents aussi dans des centres archéologiques, des zones archéologiques que l'on peut visiter dans la ville basse de Lisbonne. Tout comme d'ailleurs la présence islamique que l'on retrouve dans ces mêmes lieux de fouilles. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. On sent qu'il y a parfois d'ailleurs une permanence des activités, par exemple d'activités artisanales, d'activités industrielles, depuis l'époque phénicienne.
Mais là, il faut chercher un petit peu quand même.
Alors, il faut chercher un petit peu, mais le livre est clair, justement.
Oui, non, parce qu'il y a des graphiques, il y a des photos, d'ailleurs, hein, pour justement se promener dans Lisbonne. Mais il n'y a pas de visite guidée, par exemple.
Alors, la visite guidée, en fait, il y a des cartes où je mets les différents points d'intérêt par rapport aux itinéraires que j'ai mis en place. Donc, des itinéraires liés aux Phéniciens, liés à la période d'Alojbouna, liés à la reconquête catholique, liés également aussi à la Lisbonne, on va dire, musulmane contemporaine. Donc, ces différentes cartes permettent d'identifier les différents lieux. Et puis, c'est moi-même, j'ai fait ces découvertes, je me suis promené. Alors, des fois, ça prend une heure, ça prend deux heures.
J'étais allé pousser les portes, possible. Vous avez observé.
Oui, j'ai observé. J'ai rencontré des personnes aussi. J'ai rencontré un imam, l'imam de la mosquée de Lisbonne.
De la mosquée de Lisbonne,
voilà.
Ouais.
J'ai rencontré des ONG aussi qui travaillent sur l'accueil des Syriens, l'association Marhaba, qui accueille les Syriens.
La personne que vous avez rencontrée connaissait beaucoup de cette histoire, elle.
Oui. Oui, puisque elle-même était une spécialiste en fait de cette histoire. Donc c'était une ancienne étudiante, une docteure en histoire qui avait travaillé effectivement sur la période des Morisques. Et elle me propose une balade dans la Mouraria, qui est en fait l'ancienne, le lieu où étaient rassemblés les morts après la reconquête.
Lisbonne, dans la ville musulmane, vous avez compris que vous pouvez aller vous promener maintenant dans Lisbonne et regarder la ville, peut-être d'un autre œil. Marc Théris est notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Marc Théris est l'invité du Book Club. Je rappelle que vous publiez Lisbonne dans la ville musulmane. J'aimerais qu'on parle d'un lieu de pèlerinage qui est Fatima. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que moi, je ne la connais pas. C'est pas finalement cette histoire de Fatima.
Alors, Fatima, c'est un peu le lourd de portugais en matière de fréquentation. Je pense d'ailleurs que Fatima est passée devant Lourdes.
Aujourd'hui,
oui. Ouais. Enfin, c'est à peu près au même niveau. Donc, c'est un lieu de pèlerinage très important pour le monde catholique. Et en fait, Fatima est tirée d'une légende. C'est d'abord un nom, un prénom arabe, Fatima. Et Fatima, donc, serait issue, selon les sources, selon la tradition, de deux légendes. La première, c'est une princesse morte, en fait, qui s'est convertie au catholicisme, qui a été enlevée, qui s'est convertie au catholicisme pour se marier avec un noble portugais. Et donc le nom de Fatima serait issu de cette princesse. Et puis il y a une deuxième explication qui est tirée de recherches en islamologie qui proviendrait du culte chiite lié à Fatima. Ce culte se serait maintenu, serait né au Portugal et déplacé au Portugal et se serait maintenu, aurait été inclus à la religion catholique par la suite.
Voilà, il y a ces deux. Mais pourquoi le choix de ce prénom finalement ?
Alors, Fatima est liée au prophète. Voilà pourquoi il y a le choix de ce prénom. Il y a un culte chiite puisque les chiites, on va dire un culte lié à la descendance du prophète. Donc forcément, c'est pour ça que le prénom de Fatima a été choisi.
Les Portugais connaissent bien cette histoire ?
Alors, les Portugais connaissent la légende liée effectivement à la princesse, on va dire, ou en tout cas la princesse mort convertie, connaissent moins celle liée, on va dire, au maintien d'un culte chiite.
Et qu'est-ce qu'on lui prête comme pouvoir à cette Fatima ?
Alors, Fatima, c'est un petit peu comme Bernadette à Lourdes, elle a différents pouvoirs liés à la guérison, au bien-être, elle crée des miracles en fait. Ce sont les pouvoirs qu'on lui prête.
Alors, vous avez lu un autre livre, c'est l'histoire du siège de Lisbonne, de José Saramago. Qu'est-ce qu'il a, ce livre ? Parce que vous êtes allé marcher sur les traces de son héros ?
Oui, alors...
Ou de son anti-héros ?
José Saramago a écrit effectivement ce livre sur le siège de Lisbonne. Alors, il reprend les sources d'un croisé qui vient de Scandinavie, qui décrit le siège de Lisbonne. Et quelque part, il le contredit. Il prend un contre-pied de ce héros en montrant que il se met dans la peau des morts et en disant que finalement les Portugais sont aussi des descendants des morts et que cette histoire fait partie de l'histoire du Portugal. Ce qui est un contre-pied assez fort et ce qui est intéressant aussi de la part d'un écrivain comme Saramago, qui est un des principaux écrivains portugais. Donc effectivement, je suis ses pas parce qu'il se balade aussi sur l'enceinte d'Alujbuna qui est décrite.
Alors, l'enceinte des morts, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle justement cette enceinte des morts ?
Alors cette enceinte des morts, ce sont les fortifications qui ont été érigées par les morts pendant l'occupation d'Alujbuna, qui reprennent d'ailleurs l'enceinte romaine en grande partie. Donc José Saramago se promène sur cette enceinte, il fait des descriptifs, il se retrouve dans certaines anecdotes qui sont prêtées aux morts, et on sent qu'il y a un parti pris sympathique envers les morts, et à l'inverse, sans tomber non plus dans une histoire haineuse, il prend beaucoup de recul par rapport à l'histoire officielle portugaise et la fameuse reconquête d'Afonso Henriques. Donc en 147, qui correspond à la chute de Lisbonne.
Alors vous tombez par hasard sur la Torre Albarra. Qu'est-ce que c'est que cette Torre Albarra ?
Alors, elle fait justement partie de l'enceinte de Lisbonne.
Torre, c'est tour, hein ?
Oui, c'est la tour, oui. Alors, il y a plusieurs, en fait, restes de ce qu'on appelle la Cercamura en portugais, hein, l'enceinte mort de Lisbonne. Et parfois, c'est pas toujours très bien indiqué. Donc, c'est un peu...
C'est la valeur ajoutée de votre livre, quand même.
Voilà, oui, ouais. Oui. Même s'il y a un processus de valorisation qui est en cours avec des panneaux explicatifs, mais parfois... C'est en prenant des terrains détournés, on va dire, en faisant certains détours, que je tombe sur certains restes de cette enceinte.
Sur des trésors, sur des pépites.
Sur des trésors, dans des petites cours. Donc c'est assez aussi évocateur, parce que Lisbonne est une ville qui fait rêver. C'est un peu la ville des écrivains, enfin, elle est très onirique. Et au milieu de certaines cours, de certains patios, on trouve des restes de cette enceinte mort ou des restes archéologiques de la Lisbonne musulmane.
D'accord. Il y a le Palacio de Coculim aussi, mais qu'est-ce que vous y voyez d'islamique dans cette architecture ?
Alors, sur ce palais, en fait, ce sont des fouilles archéologiques qui ont été menées, et il y a certains vestiges qui ont été trouvés et qui seront exposés prochainement, alors je ne sais pas la date, dans un centre archéologique dédié.
Que reste-t-il de la grande mosquée Al-Jama ?
Alors, la grande mosquée est à l'emplacement, en fait, du cloître de la cathédrale. Elle est sous le cloître où il y a eu des fouilles archéologiques qui ont permis de l'identifier.
Alors la cathédrale s'appelle comment parce qu'elle a...
Alors c'est la C-cathédrale, la cathédrale portugaise de Lisbonne, qui d'ailleurs a une allure de
Santa
forteresse.
Santa Maria Maior.
Voilà, oui, qui a une allure un peu de forteresse inexpugnable, on va dire, qui est assez austère comme bâtiment. Et juste à côté, il y a le cloître que l'on peut voir. Et en dessous, il y a eu des fouilles qui ont permis de mettre à jour les restes de la mosquée. Et il y a du matériel aussi archéologique qui a été exhumé, qui aujourd'hui est exposé dans différents lieux de la ville. Mmh. Notamment au château Saint-Georges, certains éléments qui sont là. Mmh. Il y a un grand projet aussi de mise en valeur, effectivement, de ces fouilles. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été mené jusqu'au bout, mais ça le sera.
Vous citez certaines sources qui disent qu'à l'époque, il pouvait y avoir jusqu'à 30 mosquées à Lisbonne.
Oui, il y avait plusieurs mosquées, c'est certain. Oui. Alors, elles n'ont pas toujours été identifiées. Ce sont des sources littéraires, mais l'archéologie ne les a pas toujours identifiées. Mmh. Il y a une mosquée aussi qui se maintient dans la Mouralie après la reconquête catholique. Mmh. Et d'autres aussi, certainement.
Est-ce qu'il existe encore des traces de l'ancien cimetière musulman ?
Alors, il y avait plusieurs cimetières musulmans, tout autour de Alujbuna. Aujourd'hui, c'est difficile de retrouver aussi ces traces des cimetières musulmans. Et il y en avait au moins trois qui ont été identifiés par les sources écrites. Souvent, il y a des églises qui sont reconstruites par-dessus. Ouais. Donc, c'est pas toujours évident de retrouver des traces. Mais il y a des choses qui les évoquent parfois. Voilà.
Quels sont les toponymes qui, à Lisbonne, peuvent nous ramener aux racines arabo-musulmanes de la ville ?
Alors, les toponymes, il y a l'alfama, déjà, ça vient de Al-Hama, donc du Hammam, quelque part, lié aux sources d'eau. Hein, donc, c'est un des principaux quartiers touristiques, là où se situe le quartier Saint-Georges. Donc, tous les touristes connaissent l'alfama. Puis, il y a d'autres lieux aussi, souvent ceux qui commencent par Al, qui viennent de l'arabe, qui peuvent effectivement évoquer cette présence arabe. Il y a aussi des mots qui sont passés dans le vocabulaire quotidien portugais. Il y a beaucoup de mots d'origine arabe. Il y a un glossaire d'ailleurs qui est à la fin du livre.
Voilà, bien pratique.
Voilà. Ouais. Mais également, il y a aussi des mots portugais dans le derija, dans le dialecte marocain. Alors souvent on pense que ce sont des mots d'origine espagnole, mais je les mets aussi dans un glossaire. Il y a des mots aussi portugais qui sont entrés dans la langue vernaculaire marocaine.
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle garb al andalous. Qu'est-ce que c'est? Alors, je prononce
le,
mal.
Alors, le garb al andalous, voilà. En fait, donc c'est le garb, c'est comme Maghreb, hein, Maghreb. Donc, c'est l'ouest, garb, c'est l'ouest de l'Andalous, en fait. Donc, Lisbonne faisait partie de cette région de l'ouest de l'Andalousie, hein, l'Andalous. Pour le coup, elle était, comme je le disais tout à l'heure, elle était dans les réseaux liés à Séville et à d'autres villes d'Al-Andalus qui avaient plus de pouvoir politique qu'elle.
Il faut se laisser porter hein, par la ville. Est-ce qu'il existe des visites guidées en français?
Alors, des visites guidées
parce
en français...
Parce que vous en avez cherché, vous. Hein.
Alors, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Il y a des associations qui commencent à se mettre sur le créneau en portugais. Mais bon, c'est un créneau à développer. Et bon, moi, je dois me rendre à Lisbonne. Alors, je ferai avec plaisir des visites guidées de cette période et de cette histoire, plutôt, parce qu'elle comprend différentes périodes, sur Lisbonne. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment en français. Mais je pense que ça va se développer.
Mmh. Aujourd'hui, on peut dire que cette histoire, finalement, elle est en train de sortir de l'ombre dans laquelle elle vivait depuis toutes ces années?
Oui, parce que je pense que le Portugal est en train de se rendre compte que c'est un pays multiculturel. Hein, il y a aussi un travail lié à la Lisbonne noire qui existe. Mmh. Et de plus en plus, Lisbonne s'approprie cette histoire, le Portugal. Alors ça prend du temps.
C'est le vivre ensemble, finalement.
C'est le vivre ensemble. Ouais. C'est même au-delà du vivre ensemble, je dirais, c'est les métissages, c'est voir un petit peu les apports historiques de ce qu'on opposait pour mettre en avant en fait une histoire commune.
Mmh. Et vous, aujourd'hui, vous travaillez sur quoi, Marc Thirine?
Alors aujourd'hui, je travaille toujours sur cette arabité en Occident, on va dire, je travaille sur la ville de New York liée au monde arabe. Je suis en train de rédiger, je vais même terminer un portrait arabe de la ville de New York, j'espère que ça sera publié prochainement.
Mais là, on parle de quelle époque alors?
Alors on parle de l'époque contemporaine.
C'est une histoire récente, hein, oui.
C'est une histoire récente, parce que New York est une ville récente, rien à voir avec Lisbonne. Hein, bon, d'ailleurs, Lisbonne est une ville qui se prête à la flânerie, ce qui n'est pas vraiment le cas de New York, à mon avis.
Il faut avoir des gros mollets hein, pour
avoir des gros mollets.
Parce que Lisbonne,
oui,
ça monte. Hein.
Ça monte, oui. Et pour le coup, à New York, c'est une histoire récente, mais avec des écrivains qui sont connus mondialement. Je pense à Gibran Khalil, par exemple, qui a écrit Le Prophète, qui est une œuvre très lue et qui l'a écrite en anglais à New York. Mais il y a aussi tout un tas d'autres écrivains et des écrivains tout à fait contemporains. Je pense à Souhair Ahmad, par exemple, qui est d'origine palestinienne, qui est palestino-américaine et qui a pu être comédienne, mais qui a aussi écrit beaucoup de livres. Et puis, c'est pas facile d'être arabo-musulman, on va dire, à New York depuis le 11 septembre, mais même avant.
Bien, alors c'est vrai que des villes comme Cordoue, ces villes sont énormément visitées, mais vous pouvez inclure aujourd'hui une visite à Lisbonne. Je vous conseille de lire le livre de Marc Thirine, ça s'appelle Lisbonne dans la ville musulmane, aux éditions Chandaigne. Et donc effectivement, à quel genre appartient votre livre? C'est un roman guide de voyage?
Alors c'est un livre à la croisée des chemins, c'est à la fois, on va dire, un carnet de recherche, une quête. Donc il y a le côté écrivain-voyageur aussi, il y a des aspects littéraires parfois parce que il y a un peu de poésie urbaine, je décris Lisbonne qui est une ville qui se prête à ça, et puis c'est un peu un guide aussi touristique, voilà, c'est vraiment à la croisée de ces trois univers, je dirais.
Voilà, si vous voulez regarder cette ville et pousser les portes, parce que c'est important de pouvoir pousser les portes, de voir ce qui se trouve de l'autre côté des murs, eh bien je vous conseille la lecture de ce livre. Merci d'avoir été avec nous et bon dimanche.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.